ça sera un accord qui permettra au Royaume-Uni d'avoir accès au marché commun et de pouvoir continuer bon nombre de ses exportations vers le territoire de l'Union européenne sans avoir des tarifs et donc des droits de douane. Donc, et notamment des parlementaires britanniques qui vont devoir l'examiner très attentivement, puisqu'ils doivent être appelés à la Chambre des communes avant la fin de l'année. On parle du 30 décembre pour approuver ce deal. Donc, le feuilleton n'est pas terminé. Il va falloir que Boris Johnson arrive à convaincre son parti, en particulier, qu'il y a des conservateurs qui pourraient penser que cet accord n'est pas suffisant et qu'il ne délie pas suffisamment le Royaume-Uni de l'Union européenne. Il faut aussi savoir que l'opposition travailliste va faire. Est-ce qu'elle va voter pour ce deal? Est-ce qu'elle va au contraire dire que cet accord n'est pas bon et qu'il est trop dommageable pour l'économie britannique? Est-ce que tout simplement l'opposition va s'abstenir? Ce sera intéressant à savoir. Donc, ce n'est pas terminé. Il va encore falloir suivre ça pendant quelques jours.
Est-ce que c'est un accord gagnant-gagnant?
C'est comme ça que c'est présenté, en tout cas, par l'Union européenne. C'est comme ça que c'est présenté par le Royaume-Uni. Les deux côtés disent que c'est un accord qui est juste, qui est équitable et qui va préserver la souveraineté et les intérêts des deux parties. Revenons, par exemple, sur la pêche, où beaucoup de compromis ont été faits. Le Royaume-Uni et l'Union européenne se sont mis d'accord pour qu'il y ait une période de transition de 5 ans et demi, durant laquelle le Royaume-Uni va récupérer une partie de ses quotas de pêche et après ça sera négocié annuellement entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Donc là, les deux côtés disent évidemment on a dû faire des concessions, on a dû lâcher certaines choses, mais au bout du bout, il vaut mieux que ça se passe comme ça, tel que c'est dans le deal. Donc, il va vraiment falloir voir comment Boris Johnson va vendre cet accord ici. Et il disait que en fait le Royaume-Uni va gagner son indépendance à partir du 1er janvier et que donc là, ça sera un horizon qui sera complètement dégagé pour qu'il puisse redevenir une puissance commerciale internationale.
Est-ce que c'est un accord qui va dissuader l'Écosse et l'Irlande à vouloir se détacher du Royaume-Uni?
Pour l'Irlande, et en particulier l'Irlande du Nord, c'est une disposition assez particulière parce que l'Irlande du Nord va être relativement proche des standards européens. Donc l'Irlande du Nord, de par ce deal, mais aussi, en fait par l'accord en fait de sortie de l'Union européenne qui a été conclu en octobre dernier, en fait elle sera de toute manière beaucoup plus proche de l'Union européenne que le reste du pays. En ce qui concerne l'Écosse, la première ministre écossaise Nicola Sturgeon disait que dans tous les cas, ce deal ne répare pas le fait que l'Écosse a voté à 72% pour rester dans l'Union européenne, que l'Écosse aurait bien voulu pouvoir continuer à bénéficier des avantages qu'elle avait en étant une région en fait de l'Union européenne. Il y a certaines parties du deal qui ne vont probablement pas revenir au gouvernement écossais, notamment pour les cultivateurs de pommes de terre, puisque les pommes de terre, il y a une variété de pommes de terre en fait qui est cultivée en Écosse et qui est beaucoup exportée vers le continent européen, qui ne fait pas partie de cet accord de libre-échange. Ça concerne des sommes pas négligeables, hein, puisqu'il y a plusieurs dizaines de millions de livres par année. Et donc ça, c'est quelque chose qui sans doute sera relevé par les indépendantistes pour dire que toute cette expérience en fait du Brexit, tout ce processus n'a décidément pas été à l'avantage de l'Écosse et qu'aujourd'hui, il est temps que l'Écosse ait son à dire et puis décider en toute souveraineté de son futur dans le Royaume-Uni ou en dehors du Royaume-Uni.